Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est un coup de tonnerre dans le ciel français qui n'a pas été beaucoup entendu. Le 2 octobre dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, à l'occasion de la présentation d'un plan de lutte contre les séparatismes, a annoncé la fin de la possibilité de l'instruction des enfants en famille, et ce dès septembre 2021. Pas de quoi fouetter un chat, diront certains. Liberticide, crient d'autres. Coup de zoom ce matin sur une petite actualité qui pourrait bien faire beaucoup de bruit. École à la maison, le faux pas d'Emmanuel Macron, point d'interrogation. C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec nous. Pour nous en parler dans un instant, Anne Coffinier, qui est fondatrice de l'association Créer son école. Rebecca Sirmont, vous êtes mère de famille, vous pratiquez l'instruction en famille. Vous êtes co-auteur d'un ouvrage intitulé « L'instruction en famille, une liberté qui inquiète » paru aux éditions L'Harmattan. Bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro. Et Clotilde et Robin, vous êtes vous êtes parents de deux enfants et vous avez choisi de faire ce qu'on appelle l'IEF, l'instruction en famille. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Anne Coffinier, vous êtes avec nous? Vous m'entendez? Anne Coffinier, vous m'entendez?
Oui.
Voilà, tout va bien. Ça s'appelle un dérapage contrôlé, mais ça va, tout va bien. Vous êtes avec nous, merci d'être là. Alors, cette émission donc, qui fait suite à une annonce donc, du président de la République, on va écouter dans quelques instants l'extrait sonore qui concerne donc l'école à la maison. On peut dire d'ores et déjà que c'est c'est une petite actualité, parce que si j'ai bien compris, ça concerne 50 000 enfants sur plus de 12 millions d'élèves qui sont scolarisés, donc une petite actualité au milieu de la grande.
Je peux déjà intervenir sur ce chiffre.
Oui, allez-y, pardon.
En fait, ça concerne beaucoup plus de gens pour une raison assez simple, c'est que les gens qui recourent à l'école et à la maison le font souvent une petite partie de leur vie. Et donc, en fait, si vous prenez les 6 dernières années, il y a déjà plus de 250 000 enfants qui sont passés dans le système de l'école et à la maison. C'est rarement un choix d'une vie, vous voyez, c'est plutôt le choix d'une année, d'une moitié d'année, de 3 ans. Et donc, les gens qui sont concernés à un moment ou un autre par l'école à la maison sont bien plus nombreux que les gens qui sont à l'instant T dans le système, vous voyez?
D'accord. Alors, cette précision est faite. Avant qu'on retrouve donc l'extrait d'Emmanuel Macron, peut-être une autre précision. Créer son école, certains vont peut-être être très surpris. Qu'est-ce que c'est que cette association, Anne Coffinier? Est-ce à dire qu'il y a beaucoup de gens qui créent leur école, donc qui revendiquent haut et fort cette liberté que l'on a d'enseigner en France, d'une manière ou d'une autre, en dehors de l'école de la République?
Alors déjà, je ne suis pas d'accord sur le vocabulaire d'école de la République, bien qu'il soit très, très, très utilisé aujourd'hui, parce que l'école privée est aussi une école de la République. Et nous ne sommes pas hors République, nous ne sommes pas des sous-citoyens. Vous voyez, il n'y aurait pas les enfants qui vont à l'école publique qui seraient des bons républicains, des bons citoyens. Et puis les enfants qui vont à l'école catholique ou protestante, sous contrat par exemple, qui seraient des sous-citoyens ou des gens qui seraient hors de la République. Vous voyez, donc déjà, ce vocabulaire qui s'est banalisé exclut 20% des enfants qui vont dans le sous-contrat, déjà, pour commencer, vous voyez. Et il exclut encore plus, bien sûr, les enfants qui vont dans des écoles récemment créées qui se trouvent hors contrat, je vais expliquer pourquoi. Et il exclut, bien sûr, les enfants qui sont scolarisés à la maison pour des raisons diverses. Donc, je crois qu'il faut déjà faire un effort de vocabulaire pour être honnête, c'est-à-dire qu'il y a une République, il y a une nation française, et heureusement, il y a une diversité de modes d'instruction et de scolarisation en France. Ça veut dire qu'il y a à peu près, disons, 82% des enfants qui sont dans l'école publique, à peu près 17% des enfants qui sont dans l'école sous contrat, qui peut être laïque, qui peut être catholique, qui peut être protestant, qui peut être musulmane. Hein, c'est les différents types d'écoles aujourd'hui sous contrat qui existent. Et puis, il y a 0,5% des enfants qui sont scolarisés dans des écoles privées complètement libres, qu'on appelle école indépendante ou école hors contrat. Et enfin, il y a tout petit nombre, hein, 0,2% des enfants qui, à l'instant T, encore une fois, parce que ça peut ne pas durer bien longtemps, sont scolarisés à la maison.
Alors, cette précision... Attendez un instant, juste, je vous arrête, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais on va juste faire les choses dans l'ordre. Donc, on n'aura pas l'extrait donc, d'Emmanuel Macron, mais ce n'est pas grave. On va essayer donc, de redire, et je vais vous laisser peut-être le citer si vous avez, vous, les termes sous les yeux. Emmanuel Macron a donc annoncé à l'occasion donc, de ce discours, c'était donc le 2 octobre dernier, je le rappelle, c'est un plan de lutte contre les séparatismes, donc au cœur de la République. Et il a dit qu'il avait pris une mesure radicale, une mesure, on va dire, une des plus importantes qui concerne l'école, selon ses propres mots, donc depuis la loi de Jules Ferry de 1882 et la loi sur la mixité scolaire de 1969. C'est donc d'obliger, à partir de septembre prochain, si j'ai bien compris, tous les enfants à recevoir une instruction, mais à l'école, et ce, on va dire, de manière exclusive. Pourquoi est-ce autant un coup de tonnerre, Anne Coffinier ?
Alors, c'est un coup de tonnerre pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est encore une atteinte à nos libertés. Et actuellement, en pleine phase de Covid, on ne peut pas dire qu'on manque d'atteinte aux libertés. Le fait de choisir par priorité le mode d'éducation et d'instruction de ses enfants, c'est au cœur du magistère de l'Église, c'est au cœur des libertés naturelles, c'est au cœur des droits de l'homme reconnus aussi bien par la Déclaration internationale des droits de l'homme, par la Déclaration européenne des droits de l'homme, par le préambule de la Constitution européenne, par le bloc de constitutionnalité français. C'est vraiment fondamental. Et ça fait écho à ce très vieux débat qui s'est développé en France depuis la Révolution française. Est-ce que c'est l'État qui sait mieux ce qui est bon pour les enfants ou est-ce que ce sont les parents ? Et la réponse, en tout cas en démocratie libérale et dans le christianisme, elle est bien connue. C'est-à-dire que ce sont les parents qui sont les premiers responsables, sauf cas de dérapage qui existe toujours. Et quand il y a un cas de dérapage, alors l'État est légitime à intervenir et se substituer.
Alors ça, Anne Coffinier, ça c'est ce que dit l'Église, mais quand vous avez cité entre autres donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou on va dire la jurisprudence du côté du Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'on dit en France de ce sujet ? Est-ce que l'État français continue à reconnaître cette réalité ?
C'est-à-dire ? Que les parents sont les...
Oui, qu'ils sont les premiers éducateurs et on va dire les premiers à devoir le choisir.
Bien sûr, tout le droit français repose là-dessus. C'est pour ça que c'est un coup de tonnerre et c'est pour ça que le président de la République lui-même dit qu'il a conscience que ça va poser des problèmes de constitutionnalité.
Oui, alors c'est-à-dire...
C'est une inversion de paradigme.
Il y a, on va dire, la dernière fois en date que le Conseil constitutionnel peut-être s'est prononcé sur le sujet et a redit, j'ai cru comprendre que c'était une décision donc, de 1977, qui a redit le principe de la liberté d'enseignement, c'est ça ?
Non, c'est pas la dernière fois. C'est la fois où le Conseil constitutionnel a reconnu ce principe fondamental des lois de la République. Il l'a consacré, il l'a garanti. De même qu'il a fait pour la liberté d'association, c'est la même décision. Et donc c'est la fois où il a reconnu le fait que la liberté d'enseignement, c'est vraiment au cœur des valeurs constitutionnelles de la France. Maintenant, il y a eu un certain nombre de décisions du Conseil d'État, des décisions du Conseil constitutionnel qui ont précisé. Donc le sujet évidemment est très technique, parce que comme toute liberté, c'est jamais un absolu. C'est-à-dire que bien sûr il y a une liberté, mais dans le cadre d'un certain nombre de régulations. Et c'est de ça dont il va falloir s'agir. Il y a peut-être une manière de faire les choses qui soient constitutionnelles et une manière qui ne le sera pas. Donc ça, elle n'a aujourd'hui pas le projet de loi qui n'est pas rédigé à ma connaissance. En tout cas, il n'a pas été transmis au Conseil d'État. Du coup, c'est trop tôt pour le dire. Et si on revient vraiment sur le principe même, c'est que les parents ont leurs enfants chez eux, parce que tout bêtement, parce qu'ils naissent dans leur foyer et qu'ils les ont en responsabilité. Et donc, ils vont faire des choix. Et pour certains parents, à un moment donné, le choix qui paraît le mieux, c'est d'instruire eux-mêmes leur enfant ou de les faire instruire chez eux, éventuellement, par un professeur.
Alors, on va... Anne Coffinier, on va y revenir sur les raisons. Je voulais juste faire écho à quelques-unes des réactions. Donc, il y a Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, donc, qui a publié une tribune disant son étonnement, lui-même qui a profité de l'instruction en famille, si j'ai bien compris. On peut trouver aussi un article dans Libération, preuve que ça risque de faire débat. Fin de l'éducation à domicile, peu d'élèves concernés, mais un vrai débat. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une levée de bouclier, on va dire, déjà large d'une partie du monde intellectuel, ou est-ce qu'il n'y a que les familles qui se sont manifestées, Anne Coffinier, les familles concernées ?
Non, ce qui est très intéressant, c'est que ça couvre tout le spectre politique, hein, vraiment la totalité du spectre politique, ça couvre tous les métiers, ça couvre toutes les situations. Il y a une très belle tribune, par exemple, de Mathieu Béliard, le parolier, le matinalier d'Europe 1, qui a bien expliqué les choses. Tout type de gens, en fait. Et en fait, ce qui paraît le plus important de se dire, c'est une des libertés que chacun doit pouvoir saisir au moment où il en a besoin. Si vous voulez, on n'aura pas forcément tous besoin d'avoir un moment l'école à la maison pour un de ses enfants, et on peut en avoir besoin. Et si on en a besoin, on a droit à avoir cette alternative. On n'a pas à se justifier, à produire des certificats médicaux qui vont rester dans le dossier de l'enfant toute sa vie. Et on sait aujourd'hui le problème hein, de protection des données sensibles de cette nature. Si plus tard l'enfant veut avoir un prêt pour acheter une maison, et bien on lui dira non, non, vous êtes fragile d'ailleurs, vous avez le droit de faire l'école à la maison, donc pas de prêt. Donc l'idée d'avoir à se justifier avec des motifs médicaux ou autres pour avoir le droit d'exercer une liberté fondamentale, c'est ça qui est choquant. Et c'est pour ça que des gens très variés, de droite comme de gauche, des gens qui ont peu de moyens économiques ou des gens qui sont riches, il y a toutes sortes de gens, en fait, qui disent on ne peut pas toucher à ce type de liberté parce que ça nous concerne absolument tous.
Alors, de fait, vous précisez que Emmanuel Macron donc, a fait la précision que ne pourraient être instruits en famille que ceux qui auraient des, on va dire, des bonnes raisons médicales. On a envie de savoir un peu ce qui se passe ailleurs en Europe. C'est ce que j'ai fait. J'ai découvert qu'il y avait des pays où l'école à la maison, l'instruction en famille, pardon, était interdite, entre autres l'Allemagne pour l'Europe. Si on fait un panorama, ne serait-ce qu'européen, est-ce que dans la majorité des pays, cette liberté reste reconnue, Anne Coffinier ?
Ah, mais c'est bien pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette liberté est reconnue dans le monde entier, sauf dans 4 pays. Et bon, il y a 2 tout petits pays, je crois que c'est Monténégro, Pologne, bon, sur lesquels je ne sais pas grand-chose. Mais pour ce qui est de l'Allemagne, quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire de l'éducation, on sait qu'en Allemagne, la liberté de faire l'école à la maison a été retirée par un décret signé par Hitler lui-même le 6 juillet 1938, qui instaure le Schulpflicht, c'est-à-dire l'obligation scolaire, l'obligation de scolarisation, et qui indique que les familles qui ne voudraient pas le faire, eh bien, sont contraintes par la force et l'envoi de la police à scolariser leur enfant à l'école.
Et pourquoi donc, ça n'a pas évolué depuis en Allemagne ?
Oh, ben, vous savez, il y a beaucoup de lois en France qui datent de Vichy, qui sont toujours en vigueur. Hein. Vous le savez très bien, il y a une inertie du droit, et donc ces choses-là sont restées, de même que en Espagne, hein, ça remonte à l'Espagne franquiste, dans le même contexte politique, hein, qui est un contexte totalitaire classique, et ces lois sont restées. C'est pareil en France, hein, le nombre de lois en vigueur qui datent de la période de Vichy est considérable. Donc ça, c'est quand on connaît le droit, c'est des choses assez habituelles. Mais vous voyez, en Allemagne, par exemple, la possibilité d'ouvrir des écoles librement est très très facile. Il y a énormément d'écoles alternatives. Il y a aussi une compensation quelque part qui s'est instaurée. En France, c'est compliqué d'ouvrir une école hors contrat. Et puis l'État regarde ça quand même avec beaucoup de réserves, parce que il reste le mythe, la vache sacrée du monopole de l'école publique.
C'est pas le cas en Allemagne. Vous voyez. Venons-y à ces écoles hors contrat. Donc derrière la justification de cette décision par le président de la République et son gouvernement, il y aurait donc la radicalisation de certains musulmans, pour dire les choses tout à fait franchement. Alors c'est peut-être pas votre spécialité, mais eu égard à vos responsabilités et l'intérêt pour le sujet, peut-être que vous avez des informations à nous communiquer. Ça concerne quel pourcentage, si on peut arriver à le définir, de ces enfants qui sont instruits en famille? Certains disent que c'est epsilon sur ce petit nombre, et que donc c'est tout à fait déplacé comme décision.
Bah, vous l'avez dit vous-même, en réalité. Alors, la première des choses à dire, c'est que l'État n'a donné aucun chiffre et semble n'avoir aucun chiffre à communiquer, aucune statistique. Donc il prend une loi qui va retirer à la totalité des Français une possibilité, une liberté majeure d'éduquer soi-même ses enfants, au nom d'une réalité statistique inconnue. Et ensuite, lorsque des exemples sont donnés de problèmes concrets, eh bien, un coup sur deux, ce sont des écoles clandestines. Alors on dit, vous avez bien conscience qu'une école clandestine, c'est très précisément pas une école hors contrat. Parce qu'une école hors contrat, elle est déclarée, elle est encadrée, elle est contrôlée par l'éducation nationale. Et honnêtement, les contrôles sont très importants, en particulier depuis une loi de 2018 qui s'appelle la loi Gatel. Donc souvent, les exemples sont dans une confusion la plus totale. Des écoles démantelées qui n'avaient pas été déclarées, qui sont simplement des regroupements de familles qui, à un moment ou à un autre, se rassemblent dans un lieu pour faire école. Donc ça n'a rien à voir avec une école hors contrat, qui est développée dans un cadre responsable, qui est contrôlé et qui est bien défini par la loi et le législateur.
Alors ça, c'est pour, on va dire, c'est pour Emmanuel Macron. Vous avez dit tout à l'heure que les réactions, donc à ce, non, ce n'est pas encore un projet de loi, à cette déclaration, donc venaient de différents bords politiques et sensibilités. Pour autant, pour le peu que j'ai pu trouver, enfin le peu de temps que j'ai pu trouver et les quelques recherches que j'ai faites, j'ai vu que déjà en 2013, il y avait une proposition de loi d'un député, lui qui était un député UMP, qui visait à proposer, qui visait à limiter la possibilité de l'instruction en famille au seul cas d'incapacité. Est-ce que dans le fond, quand même, il n'y a pas une vague de fond, et ce, depuis de tous les bords politiques qui se rejoignent sur, du coup, sur ces déclarations d'Emmanuel Macron?
Non, pas du tout. En fait, M. Ciotti, c'est lui que vous faites allusion, je pense, avait déposé un projet de loi qui n'avait intéressé personne à l'époque et auquel personne ne croyait. Vous savez, des députés déposent des projets de loi toute l'année sur plein de sujets et en général, ils sont même pas, ils passent même pas en commission, ce qui était le cas de son projet de loi. Donc c'était bon, ce qu'on appelle un ballon d'essai et ça fait pas de signification particulière. Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi il y a cette idée-là et pourquoi finalement en France les gens parfois comprennent qu'on veuille interdire l'école à la maison. Parce que ça vient d'une peur, ça vient de la peur en fait de la situation de grave crise qu'est celle de l'éducation nationale. Aujourd'hui il y a un constat partagé qui est que l'école publique, notre école publique est en crise et qu'elle semble assez difficilement réformable. Elle a subi toute une série de réformes qui finalement n'ont fait que la défigurer. L'égalité des chances, c'est dans un mot. La France, comme vous savez, au niveau de l'OCDE, est le pays qui a le moins bon résultat en termes d'égalité des chances. Les résultats de la France dans le classement, dans la maîtrise des connaissances fondamentales sont vraiment très médiocres pour un pays comme la France, et surtout encore plus médiocres si on regarde l'argent qu'on y met. Donc on a un grand désarroi à l'égard de l'école publique. Et face à ce grand désarroi, qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, quand vous regardez les préconisations précises, eh bien, elles sont tout à fait inexistantes. Et c'est frappant de regarder que, par exemple, les rapports et les livres récents sur l'islamisation de l'école publique. Donc, Jean-Pierre Aubin, inspecteur général de l'éducation nationale, figure de la laïcité connue, dit « on a un problème ». Il le dit depuis 2004, le rapport Aubin de 2004, bien connu. Il dit « on a un problème aujourd'hui avec une islamisation réelle de l'école publique. Il faut réagir ». Éric Diard, député LR, écrit un livre sur la radicalisation de services publics.
Donc ça, on entend, mais vous laissez entendre que la réponse n'est pas adaptée. C'est ça la conclusion de votre raisonnement.
Comment ?
On entend, mais la conclusion de votre raisonnement, avant qu'on fasse une première pause, c'est que la réponse n'est pas adaptée, c'est ça ?
Oui, bien sûr, mais ce que je veux surtout dire, c'est que d'un côté, on dit on a un problème avec l'islamisation de l'école publique. D'un autre côté, ils ne proposent aucune solution pour répondre à l'islamisation de l'école publique. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils disent finalement, l'école publique coule. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut interdire qu'il y ait des nappes de sauvetage à côté. Et ça, c'est irresponsable. S'ils arrivaient à faire que l'école publique fonctionne parfaitement, pourquoi pas interdire l'école à la maison et les alternatives? Mais aujourd'hui, eux-mêmes, dans l'hémicycle, faites le test, demandez-leur de dire s'ils ont leur enfant dans le privé hors contrat ou l'école à la maison. Là, je vous mets au défi, il y aura plus de la moitié des députés dont les enfants seront dans le privé ou à l'école à la maison. Donc eux-mêmes se servent du système qu'ils voudraient aujourd'hui interdire pour les autres.
On va faire
donc,
une
c'est pas responsable.
On va faire une première pause Anne-Coffigny et puis on va retrouver nos invités et peut-être vous si vous pouvez rester un petit peu plus longtemps. Je rappelle le titre du livre d'une de nos invitées, Rebecca Sirmon, co-auteure d'un ouvrage intitulé « L'instruction en famille, une liberté qui inquiète » paru aux éditions L'Harmattan. On fait une courte pause et on vous retrouve.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
École à la maison, le faux pas d'Emmanuel Macron, point d'interrogation, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler autour du plateau, Anne Coffinier, qui est avec nous par téléphone depuis Paris, qui est fondatrice de l'association Créer son école, Rebecca Sirmont, qui pratique l'instruction en famille, comme on dit, c'est l'acronyme, c'est IEF, et qui est donc co-auteur d'un ouvrage intitulé « L'instruction en famille, une liberté qui inquiète » paru aux éditions L'Harmattan, avec, je le précise, Michel Guigue, qui est professeur en sciences de l'éducation à l'université Lille 3, et Clotilde et Romain Antons, qui sont parents de deux enfants et qui eux-mêmes pratiquent l'instruction en famille. Anne Coffinier, encore une ou deux questions avant peut-être de donner la parole un peu à Rebecca Sirmont, voilà, qui est à mi-chemin entre, on va dire, le témoin et la spécialiste. Quelles sont les raisons, les grandes raisons pour lesquelles des parents font le choix de l'instruction en famille? Est-ce qu'il y a déjà des sondages qui ont été faits? Parce que probablement que dans l'inconscient, on va dire, des Français, c'est souvent, on va dire, des extrémistes religieux qui veulent à tout prix endoctriner leurs enfants. Alors, est-ce le cas?
Y a beaucoup de choses qui font l'objet d'images d'Épinal. Il y a deux types de pratiques de l'école à la maison. Il y a ceux qui le font sans aucun cours par correspondance, et puis il y a ceux qui le font par cours par correspondance, que ce soit le CNED, ATMER, le Gendre, enfin des cours par correspondance bien établis qui ont des décennies d'expérience et des dizaines ou des centaines de milliers d'élèves. Donc déjà, c'est le contexte général. Et les raisons pour lesquelles les gens font l'école à la maison sont très variées, mais moi, je n'ai jamais rencontré de gens qui faisaient l'école à la maison pour des raisons religieuses. Jamais. Il se trouve qu'il y a des catholiques, des musulmans, des protestants, des athées, des francs-maçons, toutes sortes de gens qui font l'école à la maison, mais je vois pas l'intérêt de le faire pour des raisons religieuses.
Mais en dehors de vos rencontres personnelles, est-ce qu'il y a déjà eu, on va dire, des enquêtes faites auprès de ces 50 000 ou 250 000, ça dépend comment on compte, où ces parents expliquent les raisons de leur choix?
Alors, actuellement, il y a des sondages qui sont faits par les cours par correspondance, justement, pour pouvoir avoir des statistiques. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de raisons là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de statistiques dessus. Mais les informations qu'on a à travers les multiples témoignages, parce que sur le site educfrance.org, nous avons lancé une pétition pour soutenir la liberté de faire l'école à la maison, nous avons reçu des centaines de témoignages. Et ce qui revient, c'est toujours à peu près 4-5 grands raison. Première raison, en fait, l'enfant avait besoin de son propre rythme d'apprentissage et d'être en confiance. Et il s'était fragilisé par la collectivité ou par un harcèlement ou tout simplement par un rythme contraint. Considérez que là, maintenant, c'est l'école qui est obligatoire à 3 ans. 3 ans toute la journée. Si vous êtes, par exemple, à la campagne ou si vous avez un enfant qui est né précoce, prématuré, je veux dire. Donc un enfant qui est quand même un petit peu fragile. Si vous avez un enfant qui a besoin de dormir beaucoup ou qui a telle ou telle fragilité, ça veut dire que vous allez devoir faire une demi-heure ou 3/4 d'heure de route aller pour emmener votre enfant de 3 ans toute la journée à l'école et le récupérer le soir à 4h30. C'est assez violent. La plupart des gens mettent leur enfant à l'école, à la crèche, à 3 ans, mais aménagent le temps. Vous voyez, par exemple, l'après-midi, ils ne le prennent pas ou pas tous les jours pour qu'ils puissent se reposer. Donc là, il y a un côté qui est un peu inhumain. Mettre un enfant toute la journée à 3 ans à l'école, ça ne paraît pas une chose absolument nécessaire. Et il y a 50% des gens qui sont inscrits les 2 dernières années dans les cours par correspondance et qui font l'école à la maison, qui le font parce que leur enfant est en maternelle, ils ne voient pas la nécessité de le scolariser à cet âge-là. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Il y a beaucoup de gens qui font l'école à la maison parce que leur enfant a subi un harcèlement ou une phobie scolaire. Ça, c'est très important dans les personnes actuellement. Donc c'est vraiment l'échec de l'école institutionnelle qui est la cause de ces choix-là. Alors, il y a des gens qui font l'école à la maison parce que leur enfant est malade ou a été malade, a été fragile à un moment donné, ou bien parce qu'ils reviennent de l'étranger ou qu'ils sont mobiles. Par exemple, je suis diplomate, mariée à un diplomate. Nous avons vécu 5 ans en Grande-Bretagne, nos enfants étaient scolarisés en anglais. Et lorsque nous sommes rentrés, nous avons eu besoin d'une année de réadaptation pour pouvoir revenir au système français. Et aujourd'hui, les gens sont mobiles, Et de plus en plus de gens ont ce type de besoin, vous voyez?
Alors, vous, en creux de ce que vous dites, il y a aussi donc une autre mesure dont tout le monde n'a pas conscience, c'est que donc en 2019, l'instruction donc obligatoire a été abaissée de l'âge de 6 ans à 3 ans, et donc là, ça vient comme une suite. Alors, Rebecca Sirmont, vous êtes vous-même donc mère de famille, vous pratiquez l'instruction en famille, vous avez donc écrit une partie de cet ouvrage, L'instruction en famille, une liberté qui inquiète, au titre, on va dire, révélateur, et peut-être qui rejoint un certain nombre des réserves des auditeurs. Votre travail, c'était entre autres de rechercher un peu la genèse, si je puis dire, de ce mouvement. On appelle ça aussi le homeschooling. Maintenant, il y a aussi les non-sco en France. Ça vient d'outre-Atlantique. Comment c'est né, Rebecca Sirmont?
Alors, on peut parler donc de l'histoire aux États-Unis du homeschooling, mais avant ça, je veux quand même préciser que c'est un mouvement mondial et que c'est pas uniquement aux États-Unis que ça se pratique, même si il y a quand même. On pense à peu près 2,5 millions d'enfants en école à la maison aux États-Unis, mais il y a aussi une grande population en Afrique du Sud, au Canada, en Russie, en Australie, ce sont les au Royaume-Uni aussi. On a quand même des grosses populations, donc je vais quand même préciser cela. Après, par rapport aux États-Unis...
Qui sont ces familles, en fait, qui se sont mis, donc, semble-t-il, enfin, à grande échelle, à pratiquer cette instruction en famille aux États-Unis?
Alors, il y a eu deux grands mouvements. Donc à partir des années 60-70, il y a eu le mouvement animé par John Holt, qui était un pédagogue, qui avait la philosophie du homeschooling. Donc il a écrit plusieurs livres vraiment pour montrer que les enfants apprennent de manière naturelle ce qui les intéresse et sont animés par leur curiosité.
Alors précisez un tout petit peu plus parce que c'est très important. Souvent derrière ces choix d'instruction en famille, il y a justement cette liberté pédagogique que l'on veut être adaptée aux enfants. Alors précisez un tout petit peu quelle était sa pensée.
Eh bien John Holt pensait qu'il ne fallait pas imposer aux enfants... un contenu à apprendre, mais que de manière innée, les enfants apprennent ce qui interpelle leur curiosité, ce qui les intéresse, et que dans la vie de tous les jours, sans avoir un enseignement nécessairement formel, il y a plein d'occasions d'apprendre toutes sortes de choses pour préparer les enfants à leur vie d'adulte. C'est une philosophie plutôt existentialiste, hein, qui se base vraiment sur l'individu qui prime sur le groupe et qui cherche à favoriser avant tout le développement de l'individu. Donc, il y a eu ce mouvement-là de John Holt qui a influencé, par exemple, les anciens hippies, enfin, la gauche séculière. Et puis, il y a eu parallèlement, il y a eu un couple, Raymond et Dorothy Moore, qui ont influencé plutôt la droite religieuse, mais qui aussi avaient une philosophie selon laquelle... l'enfant apprend mieux lorsqu'on lui laisse le temps, lorsque on crée un environnement qui favorise les apprentissages, lorsqu'on le laisse se développer plus à son rythme.
Alors quand on dit que ça s'est développé dans les années 70-80, c'est-à-dire en fait aux États-Unis, c'est devenu un mouvement de fond ou ça restait de fait marginal aussi?
Alors ça a été marginal, et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu un petit peu un mouvement inverse de ce qui se passe en France. En France, l'instruction en famille est autorisée depuis les lois de Jules Ferry, hein, de 1881 et 82. Et maintenant, depuis quelques années, voilà, ça a été remis en cause, c'est de plus en plus encadré. Alors qu'aux États-Unis, il y a eu un mouvement inverse, c'est-à-dire que ce n'était pas légal. Aux États-Unis, quand les premières familles ont commencé le homeschooling.
Mais d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, ils ont servi un peu de pionniers et aujourd'hui, c'est plus facile pour les autres.
Voilà, donc c'était vraiment des militants qui faisaient ça par conviction et qui ont un peu voilà, tracé la voie pour ceux qui le pratiquent aujourd'hui, qui le pratiquent, comme l'a dit Mme Coffigné, peut-être de manière plus ponctuelle, sur une période... limité de quelques années, pas sur une scolarité complète. Mais donc ces premiers militants, ils ont vraiment lutté au niveau légal pour rendre le homeschooling légal dans tous les États aux États-Unis. En 1982, il n'y avait que deux États où c'était légal. Et En 1993, c'était enfin légal dans tous les États, donc ça s'est fait progressivement.
Alors dans votre livre, vous précisez aussi, là on n'a pas le temps de le dire, que souvent il y a une réalité derrière, semble-t-il, ces familles, c'est qu'il y a beaucoup de familles nombreuses, peut-être que ça touchera certains auditeurs, à un moment même vous citez une moyenne, je ne sais plus, dans le monde, d'à peu près 3,6 enfants par famille qui font ce choix. On a envie de savoir, probablement que les auditeurs entendent donc ce désir d'une liberté pédagogique, mais parmi les a priori, je ne vous surprends pas en vous posant cette question, parce que je disais que c'était important de partir des a priori que tout un chacun peut avoir. Quid des contrôles? Comment ça se passe aujourd'hui en France quand on fait le choix de l'instruction en famille? Voilà, il y a quelqu'un qui régulièrement vient voir si, de fait, vos méthodes pédagogiques ne sont pas trop farfelues.
Voilà. Alors, c'était prévu déjà dès les lois de Jules Ferry qu'il y ait un contrôle des familles qui choisissent l'instruction à domicile. Ce contrôle ne s'effectuait pas vraiment dans la réalité jusqu'en 1998, lorsqu'il y a eu un drame dans une communauté fermée où les enfants étaient enseignés.
Un dérive sectaire. Hein,
voilà, c'est oui. Ça. Et il y a eu un enfant qui est décédé suite à des maltraitances. Et suite à cela, le contrôle des familles s'est renforcé. Donc aujourd'hui, les familles qui pratiquent l'instruction en famille de manière indépendante et autonome doivent faire une déclaration de ce choix, aussi bien à la mairie de leur domicile que auprès de l'éducation nationale.
Et alors après, il y a un inspecteur qui vient une fois par an, une fois par trimestre.
Il y a un contrôle social organisé par la mairie tous les deux ans, et puis un contrôle de l'inspecteur d'académie tous les ans. Et les limites en fait de ce contrôle se sont précisées avec différents décrets depuis 2007. Il y a eu plusieurs décrets qui ont de plus en plus limiter en fait la liberté pédagogique.
Anne Coffinier, est-ce qu'on a un retour sur ces contrôles qui sont effectués par l'État français? Parce que d'une certaine manière, si une publicité pouvait être faite, si ces rapports pouvaient être rendus publics, on verrait si oui ou non ces enfants sont, on va dire, malmenés, en danger, éduqués selon des mauvaises méthodes pédagogiques ou sujets justement à une forme d'endoctrinement. Est-ce public? Peut-on avoir des informations là-dessus?
Moi, les seules informations que j'ai, c'est d'avoir discuté avec les inspecteurs de l'éducation nationale. Et ce qu'ils disent, c'est que pour 99,9% des cas, l'instruction qui est délivrée en famille est de meilleure qualité et plus adaptée aux enfants précis concernés que ceux qui peuvent recevoir à l'école publique ou sous contrat.
C'est-à-dire?
Et après,
qu'est-ce qu'ils entendent par là?
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, l'enfant se développe bien, il est curieux, il est ouvert au monde, il est épanoui, il a développé souvent des points forts beaucoup plus de ce qu'il aurait pu le faire dans un cadre formel où il est obligé, par exemple, de ne pas aller plus vite sur ce sujet que le reste de la classe. Vous voyez, par exemple, en maths, vous êtes très fort en maths, donc, vous avez le rythme de la classe, vous ne pouvez pas cavaler. Si vous êtes à la maison et que vous avez déjà couvert tout le programme en maths, ben, rien ne vous empêche de continuer. Rien ne vous empêche de faire l'astronomie si c'est votre passion et d'en faire 2 heures par jour. Voyez, donc il y a une souplesse, il y a une flexibilité qui est vraiment l'atout. Et puis il y a aussi la possibilité d'expérimenter plus librement les choses. Par exemple, on parle beaucoup de l'ancrage dans la nature. Dans le homeschooling, l'école à la maison, c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir renouer beaucoup plus avec la nature que ce qu'on peut le faire dans une école bétonnée, entre deux parkings, où on est parqué tous ensemble, sans espace, sans contact avec l'herbe, avec la nature, avec la possibilité de faire des choses pour les comprendre. Donc ça, c'est un atout qui est évident. Mais pour revenir à votre question, il y a un certain nombre de familles, en fait, que l'instruction, que les inspecteurs n'arrivent pas à inspecter. C'est-à-dire qu'elles sont jamais là, ou la porte est close, ou elles ont déménagé, ou ils savent pas où ils sont. Donc ils ont une partie des familles qui n'arrivent pas à inspecter. Et je vois pas en quoi le fait d'interdire la totalité de l'école à la maison va leur permettre d'inspecter mieux ces familles. Ces familles, de facto, elles se comportaient comme des gens faisant un enseignement clandestin, même s'ils s'étaient déclarés un jour à la mairie. Et donc elles vont continuer, pareil, à faire cet enseignement clandestin. Et je voudrais citer
Après, j'ai une question pour Rebecca Sirmont, alors allez-y.
Oui, je voudrais juste citer ce député hier, puisque nous avons fait un colloque à l'Institut de France sur l'islamisation et la manière dont l'école pouvait éviter l'islamisation de la jeunesse. Et le député Éric Diard, qui est chargé des missions par le gouvernement hein, sur ce sujet, a dit que et a reconnu que si on renforçait le contrôle sur leurs contrats et qu'on interdisait l'instruction en famille, bah, ça conduirait finalement, paradoxalement, à l'explosion des écoles clandestines et de l'instruction clandestine. Et moi, je crois que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va embêter les gens qui respectent la loi et qui font bien les choses sans embêter personne. Et on n'aura pas plus de moyens de contrôler les gens qui ne respecteront pas les cadres, quels qu'ils soient, alors qu'on ferait mieux de concentrer les moyens de la police, des inspecteurs, sur ces familles qui ne donnent aucune garantie et n'acceptent pas de rendre des comptes de l'instruction qu'elles délivrent à leur enfant.
Alors,
Je crois qu'il y a un piège.
avant qu'on fasse une deuxième pause, Rebecca Sirmont, j'avais une dernière question eu égard le titre de votre livre, L'instruction famille, une liberté qui inquiète. Il y a souvent aussi une question qui revient, je pense, dans l'esprit de beaucoup, c'est quid de la sociabilisation? Parce que, alors là, je ne sais pas si vous pouvez parler en notre nom propre ou au regard des études que vous avez menées au moins pour ce livre. On entend donc que ces parents peuvent avoir des raisons, que la qualité de l'enseignement est réelle, ça permet peut-être d'aller plus au rythme de l'enfant, mais enfin, à l'école, ça sert aussi quand même à sortir un peu du giron de maman. Alors, est-ce que ce ne sont que des mères possessives? Ça, vous n'avez peut-être pas d'enquête, mais quid de la sociabilisation? Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette réserve ou cette critique?
Voilà, alors, moi, je parlerais plutôt de socialisation. Et la socialisation, c'est le fait d'apprendre à vivre en société. Et ça ne se limite pas à une classe scolaire avec des enfants qui ont tous le même âge. C'est comprendre comment on vit en société, quelles sont les normes de la société. Et je pense que quand on fait l'instruction en famille, on peut tout aussi bien enseigner à ses enfants simplement par la vie de tous les jours, comment on fonctionne la vie en société, comment être un citoyen.
Mais ils n'ont pas forcément de petits copains, c'est comme c'est ce
Alors,
qu'on se dit,
mais
les copains
en
d'école.
général, les enfants qui font l'instruction en famille sont inscrits dans différentes activités extrascolaires, donc ont largement l'occasion de voir d'autres enfants. Donc ça, c'est un premier point. Et j'aime pas trop l'expression l'école à la maison, parce que ça donne l'idée qu'on est renfermé sur son logement, qu'on reste à l'intérieur et qu'on est dans un certain isolement. Mais en réalité, les familles vont beaucoup à l'extérieur. Il y a des associations nationales et locales en France de familles qui pratiquent l'instruction en famille. Donc il y a énormément d'échanges déjà entre familles, mais pas uniquement. Puis aussi les relations du voisinage, les associations autres qui permettent à ces familles d'agir dans la société et de faire participer leurs enfants.
On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver entre autres donc Clotilde et Robin Antons qui donc ont fait ce choix, qui vont nous expliquer pourquoi ils l'ont fait et quel bienfait ils en voient. L'expérience peut-être est un peu courte pour eux puisque ça fait seulement peu depuis 2 ans que vous le faites avec l'aîné de vos enfants, mais c'est déjà un premier retour d'expérience. Et puis Clotilde, si j'ai bien compris, vous-même vous avez profité de l'instruction en famille. Je rappelle le titre du livre qu'on a en partie cité pendant cette émission pour ceux qui nous quitteraient maintenant, l'instruction en famille. Liberté qui inquiète, paru aux éditions L'Harmattan.
Jacobo.
Présence à Luchon 94 FM. Vivante Église, Emmanuel Pella.
École à la maison, le faux pas d'Emmanuel Macron, point d'interrogation, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler, était avec nous Anne Coffinier, qui est fondatrice de l'association Créer son école. On était en plein dans l'actualité, puisqu'il était organisé hier à l'Institut de France par cette association, si j'ai bien compris, un colloque sur le sujet. Rebecca Sirmont, qui est donc qui pratique l'instruction en famille, auteur d'un ouvrage, l'instruction en famille, une liberté qui inquiète, co-auteur, et Clotilde et Robin Antunes, qui sont parents donc de deux enfants, qui eux-mêmes pratiquent l'IEF, comme on dit, et qui sont nos témoins. Alors, Clotilde et Robin, on va commencer par vous, Clotilde. Oui. Dans les témoignages, je dis souvent aux invités, pour ceux qui sont fidèles à cette émission et connaissent cette petite astuce, on parle du pendant, de l'avant, du pendant et de l'après. Vous, l'avant, vous êtes née dedans, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Moi, je ne suis jamais allée à l'école, de la maternelle jusqu'au bac. Tout s'est passé.
On peut vous prendre en photo du coup à la fin. Vous êtes un spécimen.
Un échantillon, voilà. Et puis je peux voilà pour me montrer que ça ne m'a pas empêché de faire des études supérieures. Je suis allée jusqu'en master, un master dans la communication d'ailleurs, hein, pour ceux qui auraient des doutes sur la capacité de s'intégrer, et de pouvoir avoir une vie dans la société. Donc j'ai fait des études dans la langue des signes. Je parle plusieurs langues. Donc voilà.
Et alors, votre mari a fait votre publicité quand on a préparé l'émission. Il m'a dit ce qui était frappant chez ma femme, ce qu'il a probablement découvert avec vous, c'est que vous aviez gardé, en arrivant à vos études supérieures, une grande curiosité et une capacité d'émerveillement. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce descriptif ?
Oui, moi, ça m'avait justement chagriné de voir que, à arriver à la fac, des jeunes qui avaient normalement choisi, à ce moment-là, c'était plus imposé, qui avaient choisi leur cursus, qui étaient dans des licences qu'ils étaient censés aimer, avec des matières qu'ils avaient choisies, eh bien, il y avait quand même ce côté blasé. Tous les jours, ça avait l'air compliqué de venir. Il y avait beaucoup de matières que finalement, ils n'aimaient pas. Ils n'avaient pas cette capacité d'émerveillement. Alors que moi, c'était un peu la fête tous les jours, d'aller découvrir à chaque fois, apprendre des nouvelles choses. Et mes frères et sœurs, qui ont également fait l'école à la maison, qui ont pour la plupart également fait des études supérieures, ça a été le même ressenti.
Mais quel est le lien de cause à effet ? En quoi, on va dire, l'instruction en famille entretient cette curiosité ou cette capacité d'émerveillement, selon vous ?
On n'était pas fatigués, dans le sens que... on avait pu aussi développer des centres d'intérêt. On savait pourquoi on faisait. On avait choisi nos études supérieures. C'est parce qu'on avait eu le temps à côté des études classiques de développer des centres d'intérêt. On avait fait des choix professionnels en fonction de ça. Et aussi, effectivement, comme les temps sur les études classiques étaient plus concentrés, plus courts, il y avait moins ce côté. Blasé, en fait. Ça ne nous avait pas coûté autant d'énergie, je pense, que pour d'autres. Et donc, après, ça se ressentait.
Robin Antunes, expliquez-nous pourquoi vous avez fait le choix, donc, avec votre épouse, pour donc, l'aîné de vos deux enfants, qui a aujourd'hui 4 ans, si j'ai bien compris, de faire donc, l'instruction en famille. Qu'est-ce qui vous a décidé ?
Bien, tout simplement le fait qu'on connaissait l'instruction en famille, donc ma femme qui l'a fait, j'ai pas eu besoin de le découvrir à ce niveau-là. Et en comparant nos expériences respectives, on a pesé le pour et le contre. À un moment, on s'est dit que ça serait peut-être plus intéressant et pertinent de proposer ce type d'éducation à nos enfants.
Alors c'est-à-dire, on a pesé, comparé nos expériences. Vous vous étiez ennuyé ferme sur les bancs de l'école et pas votre femme, et ça a suffi à vous décider?
Ah, disons qu'il y a eu ça entre autres, puis il y a toutes les expériences cumulées font que l'instruction en famille a l'air quand même plus alléchante que l'école, ce qui ne nous empêche pas de passer par l'école plus classique si le besoin se fait sentir, si jamais on n'a pas les compétences ou les capacités d'assumer notre rôle de parent et d'instructeur.
Mais vos motivations, donc, si vous deviez lister par exemple les trois principales, quelles seraient-elles ?
Tout simplement, dans l'école, quelque chose qui se ressent à tous les niveaux, c'est que c'est l'incapacité des profs, je ne remets pas en cause leurs compétences, mais l'incapacité qu'ils ont de faire du cas par cas. Ils ont des classes qui sont surchargées, et si jamais dans la classe, il y a un élève qui comprend super vite, il va s'ennuyer en cours et risque de se retrouver blasé, justement. Et à l'inverse, si y a un élève qui n'arrive pas à suivre parce qu'il n'a pas d'affinité avec la matière, il va se retrouver largué.
Et alors, permettez-moi juste de faire un peu l'avocat du diable, si je peux me permettre. C'est aussi, on va dire, comme ça qu'est la vie. On ne peut pas toujours répondre à nos besoins en fonction de nos désirs. À un moment, la vie en société, la vie en entreprise, c'est aussi d'apprendre à faire avec le rythme des autres.
Alors, bien sûr que la vie va toujours nous poser des obstacles. Mais là, en l'occurrence, on trouve une solution à cet obstacle avec l'instruction en famille. Et effectivement, l'instruction en famille, on va aussi rencontrer des obstacles parce que nous aussi, en tant que parents, on va atteindre des limites dans nos capacités. Et peut-être que quand les enfants atteindront un certain niveau, peut-être qu'il y a certaines matières qu'on arrivera moins à leur transmettre, on aura des problèmes. Ils seront aussi confrontés à ça et on trouvera aussi des solutions.
Alors ça, c'est le premier point. Les autres raisons, si vous deviez en trouver deux autres
Comme l'a expliqué ma femme, c'est qu'il y a cette perte de motivation au fil du temps. Il y a une blasitude de l'instruction parce que ça devient routinier. C'est tous les jours aller à l'école. C'est tous les jours, plus le temps passe, plus on commence à compter les minutes avant la fin de l'heure parce qu'on a envie que ça se termine. Plus on compte les heures avant la fin de la journée pour enfin pouvoir souffler, respirer un peu. Et plus on compte les jours avant les vacances et la fin de l'année parce qu'on a envie que ça se termine.
Il y a une autre raison aussi que vous m'aviez donnée, oui, quand on s'est préparé, alors qui a été citée, mais j'aimerais bien que vous en parliez du coup à la première personne du singulier, ou en tout cas en couple, l'un ou l'autre, hein, c'est que souvent dans l'enseignement, c'est parfois ce qu'on reproche un peu à l'école française par rapport à d'autres, c'est qu'il n'y a pas toujours beaucoup de place laissée aux activités physiques, manuelles, au temps à l'extérieur. Est-ce que ça a joué? Je me tourne vers vous, Clotilde Antons.
Oui, tout à fait. Par exemple, moi, je prends mon cas, j'ai pu choisir des langues que je n'aurais pas eu le temps d'explorer si j'avais été à l'école. D'abord parce que je n'aurais pas eu le temps et parce qu'en plus, elles ne sont pas proposées au programme.
Je pensais plus aux activités, on va dire, manuelles et autres.
Alors, ça a été aussi le cas pour la musique. J'ai développé très tôt un goût pour le piano et j'avais le temps de pratiquer. J'ai une sœur qui a développé de grandes capacités pour le dessin et qui est devenue d'ailleurs illustratrice. Donc vous voyez, dès tout petit, la possibilité d'explorer et finalement après d'avoir des choix professionnels plus éclairés. Des frères qui se sont passionnés pour l'astronomie. Voilà, parce qu'on avait le temps et l'énergie. Parce qu'effectivement, même si certains enfants auraient moins de devoirs et un peu plus de temps, mais malgré les allers-retours, la journée, si il nous reste un peu de temps, il y a aussi la fatigue pour ces enfants-là qui ont des grosses journées. Et nous, on avait non seulement le temps, mais aussi l'énergie d'explorer toutes ces choses à côté. Et bien sûr, il y a eu les activités, extrascolaires, où nous ont amené nos parents. On a pu faire différentes activités sportives, de l'équitation, du judo, du karaté. On a pu aussi découvrir tout ça.
Votre expérience donc est courte, puisque ça fait 2 ans que vous le faites avec votre aîné. Quand vous regardez dans le rétroviseur, quels sont, on va dire, les plus et les moins de votre courte expérience, Robin Antons?
Alors pour ma part, c'est que déjà...
Un plus et un moins, on va dire.
Allez. Un plus, c'est que déjà, ça me permet de faire beaucoup de travail sur moi-même, dans le sens où j'ai beaucoup de responsabilités et de vigilance à avoir sur mon enfant, parce que je ne le confie plus à quelqu'un, je ne délègue plus ce rôle d'instructeur, alors c'est à moi d'être un exemple, c'est à moi de me renseigner sur comment faire pour lui apporter ce qu'il y a de mieux, et ça me permet du coup de faire un travail sur moi-même pour lui apporter le mieux justement. Je vais apporter en tout cas le mieux que je puisse.
Ça, c'est le plus, enfin, c'est votre plus en tout cas. Et le moins, est-ce qu'il y a des bémols ou des réserves?
Le moins, ça va être un peu compliqué, puisque...
Pour l'instant, vous êtes enthousiaste.
Ah bah
vous,
oui.
Alors, le plus ou le moins, quel serait-il, Clotilde?
Alors, le plus, je dirais que, voilà, avec le vécu et bien renseigné, j'ai pu...
Alors, il faut dire que vous ne travaillez pas, du coup. Hein.
Alors, je suis auto-entrepreneur. J'ai ma petite entreprise, voilà, que... Je lui consacre pas trop de temps, mais voilà, elle existe. Et effectivement, ma plus grande occupation, c'est...
Donc vous êtes offert cette liberté aussi en couple. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même
oui,
une des
voilà,
conditions sine qua non.
Un choix voilà, financier à deux. Un choix professionnel pour moi aussi, de mettre un petit peu de côté ma vie professionnelle. Mais finalement, je réinjecte certaines choses que j'ai apprises, notamment la langue des signes avec mes enfants. Le gros plus, c'est que je dirais, Maria Montessori parle de phase d'intérêt.
Maria Montessori, c'est une des, on va dire, j'allais dire une des grandes prêtresses, en tout cas.
Voilà, des grandes références de certaines
d'une
pédagogie.
Une méthode pédagogique. Ouais.
Elle parle voilà, de phase d'intérêt que peut avoir l'enfant à certains moments et qu'il faut savoir explorer. L'école, par exemple, dit non, c'est à tel âge qu'on apprend les lettres, à tel âge qu'on apprend ceci, à tel âge qu'on apprend cela. Et des fois, ça arrive après ces phases de curiosité. Et je vois avec ma fille, j'ai pu repérer certaines de ces phases. Et dès 2 ans, elle a commencé à apprendre les lettres. À 4 ans, elle est d'elle-même portée à écrire. Elle nous poursuit toute la journée avec un petit carnet en nous disant « Papa, maman, donnez-moi des mots à écrire ». Elle a de l'avance dans pas mal de choses.
Et à 4 ans, à l'école, on ne lui permettrait pas d'écrire ?
Alors, on ne lui donnerait pas autant de possibilités. Elle ne lirait pas autant de choses. Et à côté aussi, elle a le temps de faire du piano. Voilà, j'ai pu repérer des phases qui peut-être plus tard vont se fermer, des phases d'intérêt où c'est normal, hein, l'enfant fonctionne comme ça, et j'ai pu les explorer. Donc maintenant, elle a pu être nourrie à ce niveau-là, au niveau de ses besoins, ça c'est le gros plus, en temps et en heure.
Est-ce que vous trouvez un moins ? Est-ce qu'il y a des réserves ?
Alors le moins,
c'est un ciel sans nuages.
Alors le moins, il est plus personnel, j'ai envie de dire, parce que... Effectivement, c'est vraiment un choix de vie, donc il faut que là où les personnes qui le font fassent certains sacrifices, notamment un choix de carrière qui est mis de côté, du temps qu'on n'a pas pour soi. Des enfants, on les a H24, c'est aussi une fatigue pour les parents. Donc de temps en temps, effectivement, je les fais un peu garder pour aussi me ressourcer et pour voir après leur donner le meilleur, parce qu'effectivement, les enfants, tout le temps, ça, on manque de repos. Voilà le point négatif très, très personnel.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de cette réalité. On aura l'occasion de refaire une émission probablement quand il y aura le projet de loi donc, qui sera présenté. Je rappelle une dernière fois le titre du livre cité, L'instruction en famille, une liberté qui inquiète, paru aux éditions L'Harmattan. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.